Merci d'être en retard. C'est le titre d'un livre, celui de Thomas Friedman, sous-titre « Survivre dans le monde de demain ». Ce n'est pas n'importe qui, Thomas Friedman, éditorialiste au New York Times, trois fois prix Pulitzer, sa thèse « Nous sommes largués parce que ce monde va trop vite et de plus en plus ». Avec la loi de Moore, les ordinateurs doublent leur capacité tous les deux ans, voilà que les robots se mettent à devenir coursiers, conseillers bancaires, auteurs de dépêches d'agences de presse et bientôt chauffeurs de bus. Et nous ? Nous n'avons même pas eu le temps de dire ouf. Nous ne savons pas nous adapter à la vitesse à laquelle le monde change. Alors, que faire ? Se mettre en retard pour prendre le temps de réfléchir, comme le dit Friedman ? Ou bien, sans céder à la panique, se dire que l'homme a toujours su apprivoiser le progrès ? Tout va très vite, c'est vrai. Le monde, et particulièrement celui du travail, change. Comment y trouver son rythme, son propre tempo ? On en parle pendant une heure, et une heure, ça peut passer vite.
France Inter, grand bien vous fasse. Thomas Chauvineau.
Excusez-moi, je suis un peu essoufflé parce que je viens de traverser une ville où tout le monde courait. Ah, je peux pas vous dire laquelle, je l'ai traversée en courant. Mais lorsque j'y suis entré, je marchais normalement, n'est-ce pas ? Mais quand j'ai vu que tout le monde courait, je me suis mis à courir comme tout le monde sans raison. Alors à un moment, je courais au coude à coude avec un monsieur, et on lui dit, dites-moi, mais qu'est-ce qui fait courir tous ces fous ? Il me dit, tout, il y en a qui courent plus pressés. Celui-ci court pour la gloire, celui-là court à sa perte. Et je dis, mais pourquoi court-il si vite ? Il me dit, pour gagner du temps. Comme le temps c'est de l'argent, plus il court vite, plus il en gagne.
Un extrait d'un spectacle de Raymond Devos enregistré en 99, autant dire au siècle dernier, visionnaire Devos, où plus vraisemblablement en 99, on faisait finalement les mêmes constats qu'en 2017. Trois invités pour parler du temps ce matin. Vincent Giray, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef au Monde et les auditeurs de France Info vous connaissent bien puisque vous êtes chroniqueur économique tous les matins avec Fabienne Sintès. Alexandre Gérard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes patron de Chronoflex, PDG du groupe Innovons et également auteur de ce livre, Le patron qui ne voulait plus être chef, publié aux éditions Flammarion. Jean-Yves Boulin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue au CNRS, hein, et également à l'université Paris-Dauphine. Et puis, comme tous les jeudis matins, le Bergson de la radio est avec nous, Thibaut de Saint-Maurice, pour sa petite philo de la pub. Salut Thibaut.
Bonjour Thomas.
Vincent Giray, vous avez chroniqué dans Le Monde assez récemment le livre de Friedman, dont on vient de parler. Parler du temps qui passe, c'est un peu comme parler de la météo. C'est un sujet populaire, un sujet plein de poncifs, pour ne pas dire rebattu. Qu'est-ce qui vous semble de neuf dans l'approche de Friedman ?
Alors, ce qui me semble de neuf, c'est précisément ce qu'on est en train de vivre. Il y a quelque chose de singulier, il y a une accélération extrêmement rapide du temps, assez foudroyant. Il parle de cette grappe d'innovation hein, qui se développe en ce moment, qui est très puissante. Et ces innovations sont mûres, c'est-à-dire que ça y est, elles commencent déjà à transformer notre vie quotidienne, soit la nôtre directement, soit celle de nos enfants, de nos proches, autour de nous, et principalement la question du travail. Et la question de Friedman, finalement, c'est de dire, quand on sent que dans nos démocraties occidentales, il y a des mouvements d'angoisse, de peur, de colère, de rejet, on l'entend bien, notamment chez nous en ce moment, eh bien ça vient peut-être pas forcément de la mondialisation ou du libre-échange, mais ça vient sans doute de la brutalité de ces changements technologiques qui sont en cours et qui transforment beaucoup de choses autour de nous. Et Friedman met le doigt sur quelque chose de singulier dans ce rapport au temps, c'est à la fois cette accélération foudroyante, fulgurante, et puis ben, notre système social, il marche pas à la même vitesse. C'est beaucoup plus rapide d'installer un robot dans une usine que de changer des institutions sociales, que de changer la formation, l'éducation, autant de choses qui accompagneraient, qui nous permettraient de profiter finalement, tous, nous tous, du côté positif de ces transformations. Et là, on en subit une tension très forte à cause de cette asymétrie, à cause de ce décalage de vitesse du temps entre d'un côté l'innovation et de l'autre, eh bien, notre capacité à s'adapter et à créer le système social qui va avec ces mutations.
Et selon lui et selon vous aussi, ces crises que traversent les démocraties occidentales que vous venez développer seraient liées à cela, une crise du temps.
Oui, il y a une crise du temps aujourd'hui parce que on le voit bien, y compris dans la campagne électorale qu'on vit en ce moment, personne n'a de solution facile, immédiate. Ça va prendre du temps. Il faut peut-être 10-15 ans avant d'inventer un système social, avant de faire mûrir les uns et les autres, avant de travailler ce que Friedman appelle la résilience des sociétés, une capacité des sociétés à prendre sur elles et à profiter au maximum des innovations sans les subir.
Jean-Yves Boulin, 55% des Français disent manquer de temps. Est-ce que les Français ont un rapport compliqué au temps ?
Je ne pense pas que ce soit spécifique aux Français. Hein. C'est le phénomène qui est analysé dans le livre de Thomas Friedman est assez universel, c'est-à-dire effectivement les nouvelles technologies, etc., qui se sont développées, qui donnent un peu ce sentiment d'accélération d'un temps qu'on n'arrive pas à maîtriser, et surtout qui se traduit dans le domaine du travail. Mais moi, ce qui me frappe, en fait, c'est que je pensais à un autre Friedman, George Friedman, en 1956, a écrit « Le travail en miettes ». Et c'était exactement la même problématique, c'est-à-dire qu'on avait une transformation du travail avec l'installation du travail à la chaîne, en particulier, l'augmentation des cadences, l'intensification. On le voit bien dans l'enquête que la CFDT vient de mener, qui s'appelle « Parlons travail », on voit bien que les gens, dans leur rapport au travail, ont un expriment ce sentiment de l'intensification du temps de travail, la charge du travail, etc. Donc la flexibilité qui s'est développée et qui se développe, qui n'est pas liée seulement aux technologies, hein. Effectivement, les nouvelles technologies, elles sont à la fois une chance et d'un autre côté, enfin une chance, elles permettent de gagner en autonomie pour certains et pour d'autres, elles, au contraire, elles les aliènent d'une certaine manière. Il y a aussi, par rapport à ça, cette accélération, il y a des phénomènes qui sont un peu exogènes à l'individu, puis il y a des phénomènes qui sont endogénéisés par l'individu en particulier, moi que j'appelle ça, enfin, qui nous rappelle un peu la soumission, la servitude volontaire, c'est-à-dire pourquoi aller être obligé d'avoir le dernier iPhone à minuit, se pointer devant l'Apple Store qui va le sortir, ou les soldes à minuit aussi, etc. Le tout de suite, quoi. C'est-à-dire que chacun, voilà, on voudrait avoir tout de suite.
Mais en fait, c'est pas nouveau.
Bah non, c'est pas nouveau, mais simplement c'est permis aujourd'hui, c'est permis parce que le drone va vous livrer directement sur votre balcon ou je sais pas quoi, dans votre boîte aux lettres, le bouquin que vous avez commandé, que vous lirez seulement dans 6 mois parce que vous n'avez pas le temps de le lire.
Alexandre Chabert, vous êtes donc chef d'entreprise et vous avez adopté dans votre société la philosophie de l'entreprise libérée. Alors peut-être en deux mots, je sais que c'est un peu compliqué à résumer en deux mots, mais qu'est-ce que c'est une entreprise libérée ?
Alors une entreprise libérée, c'est une entreprise qui fonctionne plutôt sur un mode collaboratif que une logique de performance individuelle. On est dans une logique où on va passer du pouvoir du père, le patron, qui décide dans une organisation classique, au pouvoir des pairs, P-A-I-R-S, c'est-à-dire ensemble, essayer de prendre les bonnes décisions.
Et quel impact ça peut avoir sur le temps de travail ? Je ne parle pas forcément des 35 heures, je parle sur la façon, le temps qui s'écoule au sein de la journée dans une entreprise comme la vôtre.
Alors, peut-être dire un point là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, moi je pense que la première compétence d'une organisation, c'est la capacité de s'adapter très vite. Or, l'organisation conventionnelle, pyramidale, elle est très adaptée dans les organisations, dans les environnements stables. Qui n'est plus le cas, hein. Vous savez, les Américains, les militaires américains décrivent l'acronyme VUCA, le champ de bataille, volatile, incertain, complexe et ambigu.
Hein, c'est un terme. Vous n'êtes pas sur un champ de bataille quand même.
Mais si, mais c'est un terme aujourd'hui qu'on utilise beaucoup dans le monde de l'entreprise. Hein. Si vous voulez manager l'incertitude, nous pensons qu'avoir une vision très claire à long terme et abaisser les centres de décision au plus proche du terrain, c'est la meilleure manière de faire face. Et le parti pris que nous avons dans l'entreprise libérée, la mise en place de ce travail collaboratif, de mettre le collectif d'abord, eh bien, nous permet d'être beaucoup plus agiles, tout simplement.
Et ça fonctionne.
Et ça fonctionne très bien.
Votre entreprise n'allait pas très très bien il y a quelques années. Vous aviez subi de grosses pertes, ce qui vous a d'ailleurs amené à réfléchir sur l'organisation de la société. Est-ce qu'aujourd'hui ça va mieux ?
Oui, exactement. Alors en fait, l'histoire de l'entreprise est très simple. Hein. Une histoire entrepreneuriale classique. On part de zéro dans les années 90, on monte à 300 personnes, la crise arrive en 2009 et là, elle est terrible, on doit licencier beaucoup de monde pour pouvoir être capable de faire face. Et c'est le lieu d'une question. Qu'est-ce que je peux faire pour ne jamais revivre ça, ne jamais avoir à licencier des gens que j'ai pas envie de licencier. Et finalement, il y a deux rencontres. La première, celle de Jean-François Zobris, qui est l'ancien patron emblématique de Favi.
Qui est l'un des chantres français de ce qu'on appelle l'entreprise libérée.
Exactement, et Isaac Goetz, qui vont m'ouvrir les yeux sur cette nouvelle façon de voir l'entreprise.
Vincent Giray.
Oui, je pense que dans l'entreprise libérée, il y a aussi l'engagement très singulier, très nouveau, me semble-t-il, des jeunes générations. Elles n'ont pas le même rapport au temps que les générations précédentes. On voit, on parle des millennials, par exemple, c'est un sujet tout à fait sérieux, quand vous discutez, y compris avec des patrons d'entreprise, précisément parce que les jeunes d'aujourd'hui, sans doute aussi parce qu'ils ont eu du mal à rentrer sur le marché du travail, donc ils ont retourné en quelque sorte le rapport de force. Et aujourd'hui, ce qui les intéresse, c'est pas tant de dessiner un chemin professionnel avec une carrière balisée, étape après étape, non. C'est des logiques de projet et de mission. Ils viennent pour quelque chose qui doit les exciter, ça dure 3 mois, 6 mois, 9 mois. Et après, ils ont besoin d'être remotivés par quelque chose, avec un espace, pour le coup, de responsabilité important.
Et tous les jeudis, le mélange, lui, astucieusement, marque et philosophie. L'homme capable, dans une même phrase, de parler d'une marque de basket et de Nietzsche, c'est Thibaut de Saint-Maurice.
Le soleil vient de se lever.
Faudrait être fou pour dépenser plus.
Il faut bien secouer, sinon la pub, elle reste en bas.
Et quand il s'agit d'aller plus vite, naturellement, on peut se mettre à courir. Mais pour la marque de sport ASICS, même courir, ça ne suffit plus. Il faut maintenant carrément voler.
Vous avez l'impression d'entendre un avion ou une fusée qui décolle, mais non.
Au moins.
Voilà, en fait, c'est juste donc la musique de la dernière publicité de la marque de sport ASICS, donc, avec des coureurs chaussés de baskets de la marque, donc, mais qui courent sur une piste d'aéroport et qui font tous comme s'ils allaient décoller. Et tout ça pour illustrer donc le nouveau slogan de la marque, hein, que vous pouvez voir s'afficher en ce moment même d'ailleurs dans nos rues ou dans vos magazines. Don't run, fly. Ne courez pas, mais volez. Voilà, s'il fallait un symptôme de plus, Thomas, de cette accélération permanente à laquelle nous sommes désormais soumis, eh ben en voilà un. Courir, ça ne suffit pas, c'est pourtant fatigant. Il faut aller encore plus loin, passer en courant à l'étape suivante de notre évolution. Maintenant, il faut s'envoler.
Bon, maintenant je vais un peu vous faire ralentir, Thibaut. C'est pas une invitation récente. C'est classique dans le sport que de se dépasser, d'aller toujours plus loin.
Oui, c'est vrai, c'est la promesse globale hein, des marques de sport comme Nike, Adidas ou Puma. C'est le dépassement de soi. Comme si l'enjeu du sport aujourd'hui, ce n'était pas le plaisir, ni même la santé, mais directement l'invention d'un homme nouveau, capable de dépasser les contraintes physiques de sa condition pour s'élever au rang quasi divin, souvenez-vous, hein, d'un Hermès aux sandales ailées, messager des dieux, dieu du vent, mais aussi dieu du commerce, ne l'oublions pas. Voilà, on voit bien, Thomas, hein, passer de la course à l'envol, ce n'est pas qu'une accélération, ce n'est pas une simple variation de la vitesse, mais aussi une variation, donc un changement de notre condition. Un peu comme si nous avions enfin compris qu'il fallait libérer la puissance de la vie qui nous traverse, hein, et puis qui, d'après Nietzsche, fait que l'homme n'est pas un but, mais un pont, et que ce qui compte, c'est d'abord d'intensifier toujours plus cet élan vital qui est en nous, pour nous libérer de tout ce qui nous affaiblit.
Donc cette accélération est plutôt libératrice.
Oui, alors c'est en tout cas ce que semble contenir une telle promesse. Mais cette accélération, elle est paradoxale, elle est un peu à double tranchant. D'abord parce que, comme trop souvent dans la publicité, elle est formulée, vous l'aurez remarqué, à l'impératif. Ne courez pas, envolez-vous. Elle promet beaucoup, peut-être, mais sous la forme d'une injonction à laquelle il faudrait se plier. Et dans ce sens, ce n'est pas si libérateur que ça, mais au contraire, c'est un peu réducteur. Ça réduit le sport à l'impératif de la performance et de la contrainte de soi. On oublie un peu trop vite que dans le sport, il est aussi question de plaisir, de bien-être, d'accomplissement ou d'aventure. Et puis sur le fond, cette fois, cette invitation à dépasser sa propre condition en nous envolant, donc, c'est prendre le risque de se brûler les ailes. Cette fois-ci, non plus comme Hermès, mais comme Icare. Voilà. Nietzsche a raison, hein, il y a en chacun de nous toute la puissance de la vie. Et nous devons bien prendre soin de nous en trouvant les occasions de déployer cette puissance de la vie. Mais nous devons rester la mesure de nous-mêmes. Nous devons rester la mesure de cette accélération de nous-mêmes, alors non pas pour inventer un homme nouveau, mais pour épanouir les hommes que nous sommes déjà. Il suffit, pour commencer en tout cas, de changer quelques lettres, hein, passer de l'accélération à l'amélioration, de la quantité à la qualité, et puis ensuite hein, de l'accumulation à l'épanouissement, bref, de l'avoir à l'être.
Merci Thibaut de Saint-Maurice, un homme qui court, il a fait le marathon de Paris la semaine dernière, bravo Thibaut. Dites-moi, c'était pas des ASICS que vous aviez au pied?
Non.
Bon alors tout va bien en plus, l'homme est déontologue. Sommes-nous en train de vivre une crise du temps comme le pense Friedman, l'éditorialiste du New York Times? Racontez-nous votre rapport au temps, 01 45 24 7000 ou encore sur la page Facebook de l'émission. Et vivons avec notre temps également sur Twitter, hashtag grand bien vous fasse.
Thomas Chauvineau sur France Inter.
Say something loving. I just don't remember the thrill of affection. I just don't remember.
Say something loving.
I need a reminder. The feelings escaped me.
Been anyone's kiss, throwing my arms at no one. When I gave up, I found love.
The
mind, and it's growing all the time. I do myself a disservice to feel this weak, to be this nervous.
You say something loving, it's so overwhelming. The thrill of affection feels so unfamiliar. You say something loving without hesitation. It hits me, hits me. Me say, I say something loving.
I can't hold it inside. The thrill of affection is only getting stronger.
I say something loving.
All my hesitations are fading, fading. I feel it taking over.
I wanna drive away.
Don't let it slip away.
I wanna drive away.
Les Anglais minimalistes de VXX et ce titre Say Something Loving. Et il est déjà 10h24 sur France Inter, le temps file. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes justement sur France Inter.
Grand bien vous fasse. Thomas Chauvineau.
Dans une course, à force d'aller vite, on va peut-être gagner. Ça dépend. Parce que si on va trop vite, on va commencer à perdre de l'énergie, donc on va commencer à ralentir.
Super juste.
Bah c'est comme l'essence, il en faut pour pouvoir accélérer, bah c'est comme les ressources. À un moment quand on veut trop aller trop vite, bah à un moment on finira par tomber en panne et s'arrêter.
Toutes les semaines il y a des nouvelles futures qui sortent, les jeux vidéo ça sort tous les mois.
On n'en est plus simplement à l'urgent ou au très urgent, on est au TTU. Le TTU c'est très très urgent.
Trois invités pour se poser la question du temps qui va si vite, trop vite, ou peut-être pas assez pour certains d'entre vous ce matin dans Grand Bien vous fasse. Vincent Giré qui est journaliste au Monde et chroniqueur éco sur France Info. Alexandre Gérard qui est patron d'entreprise et auteur de ce livre Le patron qui ne voulait plus être chef aux éditions Flammarion, et le sociologue Jean-Yves Boulin. Il y a quelque chose d'assez lucide dans la parole de ces enfants, Vincent Giré.
Formidable.
Si on va trop vite, et on va finir par s'arrêter et on n'aura plus d'essence.
Ils ont posé leur manière de façon réjouissante, j'allais dire, la question de la maîtrise du temps. On a aujourd'hui un problème de maîtrise du temps. On le sent, on le ressent. Vous évoquiez tout à l'heure en sociologue la façon dont nous sommes connectés, archi-connectés. Nous avons une addiction à tout un tas de choses qui aujourd'hui nous amènent à être dans l'accélération.
Oui, sauf que technologiquement, on peut de toute façon aller plus vite aujourd'hui et encore plus vite.
Mais bien sûr. Donc du coup, tout dépend de nous et de notre capacité à un moment donné, comme le dit Friedman, à descendre du manège, à appuyer sur la touche pause, à se déconnecter. Et c'est pas facile.
Jean-Yves Boulin, puisque vous avez été interpellé par Vincent Giré.
Il y a une chose qui me frappe dans cette évolution, c'est aussi la dimension sociale, c'est-à-dire la question des inégalités qui se créent par rapport à ça. Je crois que Friedman l'aborde dans son livre. C'est la question un peu de la fracture numérique, d'abord, le fait que de plus en plus on va vers une société dans laquelle la question de la maîtrise du temps est complètement centrale. Quand on a développé les politiques temporelles en France, c'était pour ça, c'était pour redonner un peu de la maîtrise aux individus sur leur rythme, parce que là, dans le temps, il y a le temps qui file, comme il y a aussi la question de la durée et il y a la question du rythme. La question du rythme, comment dans la journée, on a des rythmes qui sont complètement différents, et puis il y a des injonctions, etc. Et donc moi, ce qui me semble aujourd'hui, c'est qu'on voit de plus en plus se créer une fracture entre, en tous les cas, une scission, un clivage entre des gens qui ont une maîtrise du temps, et c'est plutôt ceux qui ont aussi qui peuvent travailler longtemps, par exemple, mais ils ont la maîtrise du temps. Par exemple, on voit bien que les cadres sont sur des horaires standards, etc. Et ils ont bon, il travaille longtemps, parce que travailler longtemps, c'est un peu un label presque un honneur. Il faut travailler longtemps, c'est être débordé, etc. C'est quelque chose on est quelqu'un d'important. Et puis de l'autre côté, une population qui est de plus en plus dans des boulots, des petits boulots précaires, etc.
Qui peuvent travailler longtemps également.
Alors qui travaillent longtemps, mais sur des horaires atypiques, sur des horaires fractionnés, sur des horaires. Voilà. Et là, il y a un cumul. Hein. Ceux qui travaillent le dimanche, par exemple, sont aussi ceux qui font des horaires atypiques dans la semaine, par exemple, ou travaillent des longues semaines, ou des semaines fractionnées. Donc on voit bien que là, d'un seul coup, on peut imaginer une société qui a deux vitesses, je dirais. Hein. Et puis n'oublions pas aussi quel est le temps des chômeurs, par exemple.
Sur franceinter.fr, ces messages qui nous arrivent, notamment celui de Aïka qui nous écrit « Les gens manquent de temps car les gens manquent d'argent, c'est le serpent qui se mord la queue. Bosser plus pour gagner moins et galérer plus, mais sans ça, on n'a rien. Le temps est crucial pour vivre, mais on nous prive de ça avec ce travail obligatoirement surchargé. » Et puis ce message un peu long de Benjamin, mais très intéressant, qui nous dit « Il n'y a pas longtemps, je me suis fait une réflexion en découvrant une magnifique initiative, celle de Recycle Livre, une alternative 100% saine à Amazon. La question, qui a vraiment besoin d'être livré en 24 ou 48 heures? Peut-on ne pas patienter une semaine de plus ? Eh bien, c'est le délai de livraison de Recycle Livre qui s'engage à reverser, Société Recycle Livre, les revenus à des associations qui combattent l'illettrisme, emploient des personnes en situation d'exclusion, en situation de handicap. La collecte des livres se fait en véhicule électrique, voilà, nous dit Benjamin. Le monde accélère trop vite et on ne prend plus le temps de lire les mails en entier. J'ai essayé de lire le vôtre en entier, en tout cas. De prendre soin de soi, des relations avec nos proches. La technologie propose une fuite en avant, mais dans laquelle il ne faut pas trop se précipiter, malgré tous les progrès qu'elle promet. Et nous sommes également au téléphone avec Jean, qui nous appelle de Valence. Bonjour Jean.
Oui, bonjour. Merci pour vos émissions, qui sont toujours bien construites.
Eh bien, merci.
Qui permettent d'avoir une intelligence active.
Merci à vous, Jean.
J'expliquais à vos équipiers, là, qu'en réalité, nous sommes dans une mode marketing du temps. Et cette mode marketing du temps a des inconvénients à long terme. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a de plus en plus d'injonctions, et ces injonctions vont créer des vulnérabilités qui peuvent aller très loin, et peut-être aussi créer un climat social négatif. Lorsque l'on regarde la réalité des faits, selon le BIT, le Bureau international du travail, et on s'est aperçu, si vous voulez, qu'il y avait une réalité du travail, c'est-à-dire que le travail efficient était un travail entre 4 et 5 heures. Au-delà de 5 heures, d'ailleurs c'est pareil pour les rythmes scolaires, mais avec moins de temps, au-delà de 5 heures, le travail n'est plus efficient. Si vous voulez, c'est plus un travail qui est lié à l'habitude qu'à la réalité économique. Donc, si vous voulez, par rapport à tout ça, je pense que tout être intelligent a besoin de temps, non seulement de besoin de temps, mais d'analyser la réalité de ce qu'il fait et de ce qu'il peut faire le mieux possible.
Et voilà, d'adapter. Merci pour votre émission. Mais merci beaucoup, Jean. Et en effet, c'est une question intéressante. J'imagine que vous l'êtes posée, Alexandre Gérard, au sein de votre société, c'est-à-dire adapter finalement le rythme du travail avec vos salariés, de penser le temps.
Alors effectivement, la particularité de mettre la confiance au cœur d'une organisation la transforme. Puisque si vous mettez la confiance, dans votre agenda, tout ce qui concerne le reporting, le contrôle, dire aux gens ce qu'il faut faire, passer votre temps à assister à des réunions qui ne servent à rien, tout ça, ça n'a plus lieu d'exister. Et effectivement, c'est un grand bonheur pour nous de retrouver du temps. Dès qu'on commence à basculer sur les organisations de confiance, on va réapprendre à faire des choses pour lesquelles on est là, c'est-à-dire travailler avec les gens, mettre en œuvre le collectif et préparer l'avenir de nos organisations.
Je lisais le témoignage, je crois que c'est l'un de vos analystes financiers qui disait « Avant, je fournissais reporting et tableau de bord pour la direction. Aujourd'hui, mes compétences sont à la disposition des hommes de terrain et je consacre une partie de mon temps à leur expliquer les chiffres désormais accessibles à tous. »
Exactement, puisque si on veut que les gens puissent prendre de bonnes décisions, il faut qu'ils soient à la fois bien formés et bien informés. Et donc, le rôle de Claudio, puisque c'est Claudio qui avait fait cette note, en fait, c'est passer son temps à expliquer le chiffre, à expliquer comment ça fonctionne, pour que les équipes puissent prendre leurs bonnes décisions.
Donc, il faudrait plus parler de temps de travail, mais de rythme de travail.
Si vous voulez.
Vincent Giré.
Oui, le temps se transforme aussi. Par exemple, on a vu que dans les banques, les gens qui sont nos conseillers bancaires, par exemple, eh bien, leur travail a changé parce qu'on a mis de l'intelligence artificielle désormais, qui permet, par exemple, de classer leurs mails, de dégager des priorités ou de générer des opérations automatiques quand il s'agit d'un virement, de choses simples. Eh bien, le temps gagné grâce à cette technologie, à l'intelligence artificielle, est remis pour finalement être en disponibilité et plus proche des clients. Donc il y a une transformation qui est pas simple, parce que parfois être loin du client, c'est pas mal aussi, on s'en protège un peu, et du coup voilà, on voit bien que tous ces métiers-là vont être impactés.
Parce que pendant très longtemps, avec l'industrialisation, la vie sociale était structurée autour de l'entreprise. Finalement, tout le monde travaillait en même temps et plus ou moins aux mêmes endroits. Est-ce que c'est aujourd'hui en train de voler en éclats, Jean-Yves Boulin ?
Ah bah oui, là, c'est très clairement. D'ailleurs, c'est un peu lié à la question de la réduction du temps de travail, qui est quelque chose qui, moi, je pense, va dans le bon sens, ce que dirait un des auditeurs. C'est-à-dire que, quand il citait l'étude du Bureau international du travail, effectivement, le temps de concentration, est quand même limité. Donc, on le sait très bien, ça s'est très bien analysé, etc. Et ça dépend, bien sûr, des individus, des biorhythmes, etc. Mais c'est clair qu'avec la flexibilité, avec le fait que on ne travaille plus avec la sirène qui sonne, tout le monde sort, tout le monde arrive, etc. Et tout le monde... Quand Volkswagen, par exemple, a mis en place les 28 heures en 1995...
Renault et Peugeot. Alors, je dis ça pour le CSA. Continuez.
Voilà. Il y avait à peu près 150 horaires qui se sont mis. La durée du travail était de 28 heures, mais il y avait 150 horaires différents. Donc, effectivement, c'est toute la structure de la sociale même qui changeait. C'est-à-dire que, par exemple, à la sortie d'usine, tous les bocs de bière étaient déjà sur le comptoir du café qui était en face, les bus étaient là et prêts à partir, et tout ça a été transformé, a volé en éclats, parce qu'effectivement, chacun maintenant arrive à ça. En plus, il y a la possibilité d'avoir une flexibilité personnelle sur les horaires d'accès, qui sont différents, selon les individus peuvent choisir, décider un petit peu d'arriver 2 heures plus tôt, 2 heures plus tard, travailler, voilà, il y a un temps de présence. Moi, ce que je voulais souligner aussi sur la question, c'est aussi sur la question de la technologie, c'est aussi le dévers aussi qui a eu lieu avec la technologie sur le client. Le client, maintenant, est de plus en plus chargé, que ce soit à la banque, que ce soit dans les commerces, que ce soit au supermarché, d'avoir à remplir son caddie, à faire de plus en plus lui-même de démarches. Et alors, du coup, ça, c'est aussi quelque chose qui est très chronophage. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, le temps il devient un des éléments aussi de l'accélération.
Et c'est ce que dit bien l'essai de Friedman, c'est que c'est pas seulement le monde qui est en train de changer à toute vitesse, mais qu'on parle d'une reconfiguration à tout. Voilà, le client, l'entreprise, c'est une reconfiguration totale, Vincent Giray.
Oui, ça, c'est là où ça concerne à la fois toutes les différentes personnes que nous sommes en même temps. C'est-à-dire, nous sommes par moments salariés ou travailleurs. Il y a d'autres moments où nous sommes clients. Nous allons au supermarché ou à la banque. Et on voit bien que là, on a affaire à des gens qui, effectivement, ont un autre rapport au temps. Et nous-mêmes, nous ne leur demandons pas nécessairement la même chose. Donc, c'est ça aussi qui est assez... je pense qu'il faut en même temps pas trop noircir le tableau, éviter de se dire, il n'y a que des aspects négatifs. Je pense qu'on peut pas ralentir la technologie non plus, que c'est pas bien de ralentir la technologie parce que de toute façon elle finira par s'imposer. Donc vaut mieux la penser en amont, vaut mieux y réfléchir avant que la subir, et donc vaut mieux l'accueillir et l'inciter. En revanche, on a tous ensuite une responsabilité dans la façon dont on gère. C'est à la fois collectivement,
collective et individuelle, bien
absolument,
sûr.
Absolument,
absolument. C'était pas le cas de Christine qui nous écrit sur Facebook et qui dit que tous les outils mis à notre disposition pour soi-disant nous faire gagner du temps nous piègent parce qu'ils impliquent une injonction à réagir immédiatement. Et puisqu'on parle du temps, une plongée radicale dans le passé, il faut bien dépoussiérer de temps en temps les vieux disques, surtout quand ils sont remisés dans la grange.
About the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mound on the range. They got a lot of nice girls. I'm on.
Top Lagrange et sa date, me semble-t-il, de 1973, une époque où l'instantanéité d'Internet ne parlait à personne. C'était pas forcément mieux, et vous êtes toujours sur France Inter.
Thomas Chauvineau, grand bien vous fasse, sur France Inter.
Notre société, elle n'a qu'un rythme, elle accélère.
500, 14,8 km/h.
Tout va trop vite, mais plus que ça. C'est-à-dire qu'on se dit, mais je vis, mais à quoi ça sert ?
Bienvenue à Segonzac, seule ville en France à avoir reçu le label Ville Lente.
La patience fait partie de notre vie. Nous, ça ne nous est pas du tout difficile de ralentir, de savoir que le meilleur, c'est il faut attendre pour l'avoir.
Ralentir, la question du temps dans ce grand bien vous fasse aujourd'hui avec Vincent Giré qui est journaliste au Monde, Alexandre Gérard qui est patron, Jean-Yves Boulin sociologue, Thibaut de Saint-Maurice philosophe et chroniqueur de l'émission nous fait l'amitié de rester. Cette idée de lenteur, l'éloge de la lenteur, Alexandre Gérard, au sein de votre groupe finalement, vous l'avez mis en application complètement en partant de votre société pendant 7 mois pour vous occuper de vous et faire le tour du monde.
Alors oui, c'est effectivement, quand on est un patron conventionnel, on est un petit peu addict à son entreprise. Hein. C'est-à-dire que déjà, on est pétri de croyances. J'étais convaincu que si je bossais pas 15 heures par jour, j'avais pas l'exemplarité pour emmener mes équipiers au boulot. J'étais convaincu que si j'étais pas au cœur de toutes les décisions, il pouvait rien se passer de bien. Et au moment de cette bascule, eh bien, j'ai réalisé un de mes rêves d'enfance, si vous voulez, c'était de faire un break, vraiment, de me désintoxiquer de cette entreprise dont j'étais devenu par un certain nombre de côtés assez addict, et de partir faire un break d'une année. Je suis parti une année avec ma femme et nos 3 enfants pour aller découvrir le monde. Et là, forcément, vous êtes obligé de rentrer dans un autre rythme de vie. C'est caresser un petit peu les vertus de la slow life, c'est-à-dire le fait de prendre le temps de faire les choses. Et ce qui était formidable, c'est que quand je suis revenu, l'entreprise allait beaucoup mieux que quand j'avais été là.
Comme quoi, vous avez dû découvrir qu'on pouvait se passer de vous.
Donc ça pique. L'ego, bien sûr.
Sur franceinter.fr, ces messages qui nous arrivent, Nadine qui nous dit, et je partage d'ailleurs Nadine à titre personnel votre point de vue, depuis quelques années je n'utilise plus jamais l'expression « je n'ai pas le temps de », pas le temps d'écrire aux proches, pas le temps de téléphoner, de voir un tel, etc. Mais j'utilise l'expression « je n'ai pas pris le temps de », et ça a changé ma vie. Et puis cet autre message de ce pseudo, c'est Pat181, toujours nous maintenir dans une espèce d'urgence et de course contre le temps, n'est-ce pas là un moyen de nous empêcher de prendre le temps de réfléchir et d'être ainsi plus malléable. Nous sommes également au téléphone avec Marie-France. Bonjour Marie-France.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Nance-les-Pins.
Oui, tout à fait.
Belle région du sud de la France où il doit faire beau en ce moment, j'imagine, et chaud. Et
voilà, tout à fait. C'est pour ça que je prends le temps de vivre, justement. Et que quand je travaillais, parce que je viens juste d'être à la retraite, j'allais en vélo au travail. Naturellement, il fallait que je me lève un peu plus tôt, mais je prenais le temps d'aller en vélo à mon travail. C'était pas très loin, voilà. Mais dans mon travail qui m'a beaucoup pris de temps, comme vient de le dire votre patron, j'essayais d'échapper au tourbillon en prenant quelques vacances déjà et en allant dans d'autres pays qui prennent le temps de vivre. Et puis en même temps, je restais un peu plus longtemps le soir dans mon job pour pouvoir faire ce que j'avais envie avec mes idées parce que j'étais dans le milieu médical et automatiquement là, il faut donner du temps. Et puis, je ne me suis pas laissé prendre dans la mesure du possible parce que comme vous disiez votre autre invité, par moment, on ne peut pas refuser les nouvelles technologies. J'essayais quand même de lutter contre ces autoroutes où on va à toute allure de temps en temps. Pardon, excusez-moi.
Je vous en prie, prenez le temps.
Je prends le temps, mais je sais que vous êtes pressé, que vous avez des timings, justement.
Vous n'imaginez pas à quel point. Il est déjà 10h42 sur France Inter, il nous reste 18 minutes d'émission.
En prenant des petites routes accessoires, quand on est sur l'autoroute, pour prendre le temps de regarder le paysage, j'ai aussi choisi de vivre à côté de mon travail pour ne pas perdre du temps sur la route, mais apprécier tout ce qui restait. Et j'ai à chaque fois essayé de lutter contre ce tourbillon de la vie. Mmh. Voilà. Et je suis entièrement d'accord avec vos invités qui ont parlé précédemment sur tout ce que le temps nous oblige à faire. Et en ne rentrant pas dans tous ces achats, dans tous ces choses de la vie qui nous obligent à travailler plus. Après, je voudrais avoir une pensée pour les gens qui sont obligés de travailler par leurs moyens. mais qui peuvent prendre le temps de vivre comme moi, prendre à faire une journée pyjama, prendre un petit déjeuner à 10h et puis laisser le ménage tomber ou laisser certaines choses qu'on se croit obligé de faire de côté.
Eh ben voilà. Merci Marie-France de cet appel. Dites-moi, vous êtes en pyjama ou pas là?
Oui, je suis en pyjama et je prends mon petit déjeuner.
Okay. Bon. Eh ben bonne journée. Profitez bien. C'est le brunch. Marie-France, Thibaut de Saint-Maurice, vous vouliez réagir.
Oui, ce qu'on entend finalement, c'est que au-delà du constat sur le fait qu'il y a cette accélération qui confronte à la fois les individus et les organisations et les sociétés, ce qu'on commence à entendre aussi là, dans nos réflexions et dans cet échange qu'on vient d'avoir, c'est que il y a non pas une solution globale, mais des petites solutions qui consistent à se réinvestir de sa responsabilité à l'égard du temps. Ça peut être prendre le temps d'aller faire une pause et d'aller voyager. Mais c'est ça aussi qu'il faut pas prendre prétexte de cette accélération qui est vertigineuse pour se désinvestir de sa propre responsabilité. Et en réalité, c'est aussi un appel à notre liberté, à chacun de nous. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je suis capable de faire? La pire des excuses, c'est toujours, effectivement, je n'ai pas eu le temps. J'ai un élève qui me rendrait un devoir, qui me rendrait pas un devoir en me disant, j'ai pas eu le temps de le faire. C'est, voilà, tu n'as pas pris le temps. Il faut être responsable aussi de son propre temps.
Ne te demande pas ce que le temps ferait contre toi, mais demande-toi ce que tu peux faire avec le temps.
Oui, pour, non, mais c'est
pour,
ça.
C'est joli, pour paraphraser Kennedy. Jean-Yves Boulin, Marie-France, qu'on vient d'entendre, posait la question de l'urbanisme. Elle va travailler en vélo. Et ça aussi, je sais que c'est une réflexion qui vous intéresse, de l'urbanisme temporel, d'imaginer la ville en adéquation avec la façon de vivre, avec le temps, justement.
Oui, c'est l'articulation entre les deux dimensions dans lesquelles on vit tous, c'est-à-dire l'espace et le temps. C'est-à-dire que penser une ville, c'est à la fois la penser dans son espace, et on l'a surtout pensé à ça, à aménager l'espace. Et aujourd'hui, depuis en particulier les années 2000 en France, mais ça a commencé dans les années 90 en Italie, c'est développé aussi un peu en Allemagne, ce qu'on appelle les politiques temporelles, c'est d'essayer effectivement d'articuler cette question, d'intégrer la question du temps justement dans l'aménagement de la ville. Et c'est-à-dire de penser par exemple les horaires d'ouverture, repenser les horaires d'ouverture, repenser aussi les transports, la localisation des différents services pour éviter des déplacements inutiles, ce qu'on appelle les mobilités contraintes, de façon à ce que les gens soient dans des mobilités plus choisies. Et c'est là d'ailleurs où on a parlé de second acte tout à l'heure et du mouvement Slow City. Les politiques temporelles, les villes qui sont...
La ville la plus lente de France, hein, pour ceux qui n'auraient
pas ville,
été...
Oui, la ville, c'est enfin, ce qu'il dit.
Dit, en tout cas, en 2010.
Justement, je pense que là, il y a quelque chose d'un peu paradoxal. Ce qu'il faut, arriver à faire, en fait, c'est la conciliation entre la vitesse et la lenteur. C'est-à-dire que c'est la question du rythme, toujours. Et ça, c'est aussi alors, donc, les politiques temporelles, elles pensent ça. Elles pensent, permettent aussi de la possibilité d'aller vite, parce que parfois, on est obligé d'aller vite. Donc, mais aussi de la lenteur, c'est-à-dire d'avoir des pistes cyclables aménagées, etc. Un petit peu tout ce qui se fait dans les pays du Nord. Et puis, la deuxième chose, quand même, c'est aussi mettre en place des dispositifs. Monsieur a parlé tout à l'heure de la possibilité, bon, il est parti faire le tour du monde, etc. Ça, tout le monde ne peut pas se le permettre, parce que d'abord, il faut des moyens, etc. Mais derrière aussi, on peut penser aussi, par exemple, la question du temps de travail. Moi, je dis toujours ça. C'est-à-dire que pour sortir par le haut des 35 heures, c'est-à-dire c'est pas les supprimer parce que ça, c'est ridicule, c'est simplement de le penser maintenant le temps sur l'ensemble de la vie, c'est-à-dire que effectivement il y a des périodes où on a besoin de ralentir, on a des jeunes enfants, ben on voudrait passer à temps partiel, un temps partiel réversible, ou le congé parental,
de construire comme une véritable politique du temps.
Voilà une politique du temps sur l'ensemble de la vie. Voilà.
Nous sommes au téléphone avec Françoise. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Vous nous appelez de Chouine.
Oui.
En Eure-et-Loire, d'accord.
Oui. Moi, je voulais dire que je suis absolument convaincue que la perception du temps est liée à l'âge. Quand j'avais 15 ans, il me semblait interminable. Aujourd'hui, il passe très, 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 très vite. J'ai passé 70 ans.
Vous avez 70 ans.
Oui. Et je reviens sur ce que quelqu'un a dit, pourquoi recevoir un bouquin le lendemain, ben parce que moi, j'ai envie de le recevoir très vite, parce que je ne suis pas sûre que j'aurai le temps de le lire.
Donc, profitez rapidement, jusqu'au bout et très vite.
Plus je suis âgée et plus je veux profiter de la vie qui me reste.
Alors que, d'habitude, les gens qui sont à la retraite et qui ont sensiblement votre âge disent au contraire qu'ils ont tout leur temps.
Ben non, on n'a pas tout son temps. La mort s'approche, mes enfants.
Eh bien, merci de ce témoignage philosophique, Françoise. Vous êtes en train de lire quel livre?
Je me suis replongée dans Tosi Menon.
Formidable. Formidable.
Il y a du rythme.
Il y a un peu de rythme, en effet, dans ce hymno. Merci, Françoise Vassangiré, vous vouliez réagir.
Oui, non, c'est tout à fait intéressant. On voit d'ailleurs à travers les témoignages des auditeurs l'effort de chacun pour reprendre la maîtrise de son temps. Et on voit aussi combien l'allongement de la durée de la vie est aussi un défi pour nous, finalement. Hein, pourquoi, par exemple,
mais ce n'est pas que technologique, d'ailleurs. Non, enfin, même si c'est lié à la technologie.
Exactement, mais pas seulement. Par exemple, pourquoi on voit que les Français, mais après tout, ça vaut aussi chez nos voisins ou ailleurs, ont une certaine, n'ont pas envie de rallonger, de repousser les limites de l'âge de départ à la retraite. Pourquoi ça coince à un moment donné? Pas simplement parce qu'on n'a pas envie de travailler ou parce qu'on est lassé, mais parce que on envisage, du coup, dans une durée beaucoup trop longue, l'exercice d'un seul métier. Si vous demandez, par exemple, aux enseignants de dire, ben, vous allez faire ce métier-là pendant 40 ans, ben là, ça coince. Honnêtement, ils n'ont pas envie de faire ça 40 ans, ou d'autres métiers. Certains ont envie, mais pas tous. Et donc, du coup, le défi pour nos sociétés, c'est de se dire, au fond, on devrait inventer une possibilité de dire, bon, je suis prof pendant 10, 15, 20 ans, et après, je dois avoir une chance, un temps où on m'accompagne, y compris financièrement peut-être, pour avoir un deuxième temps professionnel ou un troisième temps.
C'est la deuxième jeunesse.
Non, mais là, on a quand même les moyens. Enfin, actuellement, il y a quand même à notre disposition des dispositifs. C'est-à-dire, en particulier, le compte épargne temps, par exemple, sur l'ensemble de la vie. Bon, voilà, c'est ça, c'est de penser. La CFDT a récemment, avec Terra Nova, ils ont produit une petite note qui, effectivement, a l'idée de banque du temps. C'est-à-dire que chaque individu peut accumuler du temps, etc.
Terra Nova, c'est un think tank, hein. Ouais, c'est proche, un think tank, oui, de la gauche, proche de la gauche, qui réfléchit, en effet, sur ces questions de société.
Voilà, voilà.
Et, comme la CFDT, les.
Voilà, exactement. Mais en tous les cas, cette idée de banque de temps que moi je défends depuis très longtemps et qui a été mise en œuvre en Italie en particulier au niveau par les municipalités, c'est-à-dire là c'est plutôt des systèmes d'échange, hein, c'est-à-dire mais c'est intéressant parce qu'un peu comme nos selles, hein, vous savez les systèmes d'échange locaux. Donc sur cette question du temps, effectivement sur l'ensemble de la vie, eh bien on peut utiliser le compte épargne temps qui permettrait par exemple à un moment donné d'aller se former pour justement parce que l'idée c'est d'arriver à l'âge de la retraite. Les gens ne veulent pas bloquer l'âge de la retraite, ils veulent pas arriver exhausted, c'est-à-dire très fatigué au moment de la journée.
Quand épargne temps qui commence en effet à se développer, sur Facebook, Rubik's Coco nous écrit: oui, tout va trop vite, le temps file, et je me dis, aurais-je encore un jour le temps? Feu, non pas parce qu'il y a le feu et qu'il faut se presser. Feu, c'est le titre de la chanson qu'on écoute maintenant, et juste après, on se demandera s'il ne faudrait pas mettre en place un ministère du temps.
Thank you.
feu de l'autodidacte Fischbach. Toute la programmation musicale sur le site franceinter.fr.
Thomas Chauvineau sur France Inter.
Gendarmerie nationale, vos papiers, papiers du véhicule s'il vous plaît.
Pardon, je roulais trop vite, excusez-moi, mais je reconnais, hein, je reconnais ma faute.
Vous avez été contrôlé à 50 km/h.
150 ?
Non, 50, 2 fois 25.
50, c'est possible ça ?
C'est dangereux de rouler trop lentement sur l'autoroute, monsieur Abrams. Allez-y.
Merci.
Et appuyez un peu sur le champignon quand même.
Jacques ! Un extrait de Bienvenue chez les Ch'tis pour parler du temps et de la lenteur aujourd'hui. Vincent Giray, rédacteur en chef au Monde, Alexandre Gérard qui est patron d'entreprise, Jean-Yves Boulin, sociologue. Cette histoire de finalement perdre du temps, c'est devenu suspect. Il faut aller vite, y compris sur l'autoroute où en effet ça peut être dangereux. Mais perdre, si quelqu'un vous dit « je perds mon temps », il est forcément suspect, Vincent Giray.
Ah ben oui, on est dans la tyrannie de la vitesse. C'est un peu ce qui caractérise la période. Savons-nous, je pense que là-dessus, il faut aussi penser aux jeunes générations. Je pense qu'il y a quand même des choses à faire pour se dégager quand même de cette tyrannie possible aussi de la technologie. J'en ai souligné les aspects éminemment positifs, formidables à bien des égards, mais sur la question par exemple de l'attention, le fait de pas mettre les portables dans les écoles, par exemple, en classe, me semble une mesure d'évidence pour moi. C'est-à-dire de pouvoir à un moment donné faire en sorte que les jeunes générations et ceux qui sont nés avec le mobile, l'ultra-connexion permanente, et la possibilité de se déconnecter et de imposer à cet âge-là, où on est encore dans un âge de formation de l'esprit, de l'attention, etc. Ça me semble quelque chose d'extrêmement important. Je regrette qu'on ne l'ait pas déjà fait, d'ailleurs.
Sur franceinter.fr, ces messages qui nous arrivent. Mathieu, perfide un peu, il nous dit ce matin, on est chez les bisounours. En réalité, le temps gagné grâce aux nouvelles technologies et l'introduction de l'intelligence artificielle est utilisé principalement par les décideurs pour supprimer des emplois. Compétitivité. Cet autre message, qui est une solution comme une autre, proposée par Catherine, qui nous dit, voilà la solution, ralentir la Terre. Si elle tournait moins vite, on aurait des journées plus longues. Et puis, Lucie qui nous donne ce dicton africain qu'elle a entendu. Vous avez les montres et nous, on a le temps. On évoquait juste avant le disque la création d'un ministère du temps. C'est un collègue à vous, Jean-Yves Boulin, qui l'a évoqué aussi. Me semble-t-il, c'est Jean Viard, un sociologue qui s'intéresse à cette question, qui dit qu'il faudrait mettre en place un ministère du temps.
Oui, alors c'est aussi une proposition d'un des candidats à la présidentielle.
Merci de ne pas le citer, sinon il va falloir citer les 10 autres.
Oui, non, je ne le cite pas, donc voilà. Et puis ça a été effectivement une expérience très éphémère. Alors là, on peut le citer, début du septennat, du premier septennat de François Mitterrand, hein, puisque là, c'était André Henri.
Ça a duré quelques mois, je crois.
Hein. 6 mois, c'était André Henri. Il y avait un ministère, pas du temps, c'était un ministère du temps libre. Bon, là, on était effectivement dans la mythologie du front populaire. Hein,
dans l'utopie.
Voilà. Pas l'utopie, c'est-à-dire aussi ce que vous disiez, c'est-à-dire la question de la pédagogie aussi par rapport à la question du temps. Quand vous parlez des enfants, etc., perdre son temps, on perd jamais son temps. C'est-à-dire on le perd pas. On est dans une méditation, on est dans autre chose. C'est-à-dire on ne fait rien, mais on ne fait rien, ça ne veut pas dire que l'esprit ne fonctionne pas et qu'on se met pas en distance par rapport à la question de l'accélération, au rythme de la vie, etc. Donc effectivement, je ne pense pas que ce soit l'interdiction finalement interdire. Ça va pas, parce que de toute façon, il y aura toujours une tentation d'enfreindre l'interdit. Mais par contre, la pédagogie par rapport à la question
du temps. Ça pose deux questions. C'est-à-dire qu'il y avait l'approche dont parlait tout à l'heure Thibault, très personnelle et comment moi je gère le temps. Et puis, il y a l'approche étatique. Est-ce qu'aujourd'hui, un gouvernement peut prendre des mesures qui seraient efficaces pour régler les problèmes de ce temps qui va trop vite?
C'est comme les villes. C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre des mesures qui incitent, qui facilitent, etc. Mais ils ne peuvent pas prendre des mesures autoritaires. Je ne pense pas que ça passe par l'État. Ça passe par. L'État peut mettre en place à travers l'éducation, à travers des tas de choses. Mais un ministère du temps libre, c'est bon. C'est comme au début en France, quand on a fait les politiques temporelles, on a repris le terme italien, ufficio di tempi, c'est-à-dire bureau du temps. Je vais vous dire qu'en France, bureau du temps, ça a eu du mal à passer, quoi. Parce que bon, donc on a fait maison des temps, agence des temps, etc. Parce que bureau des temps, bah, ça faisait penser un petit peu soit.
La ville de Rennes a un bureau des temps.
Mais bien sûr, Paris aussi a un bureau des temps. Paris aussi a un bureau des temps. Bon, c'est l'idée que là, il y a une équipe très souple qui travaille à faire de la transversalité, déjà faire travailler entre le ministère du temps libre, ça serait l'idée d'avoir. une petite structure qui fait travailler entre eux les différents ministères. Par exemple, l'éducation avec la famille avec, avec l'entreprise.
Ah, là, etc. On est dans la concordance des temps.
Là, on est dans la concordance des temps, exactement.
Eh bien, merci à tous les trois d'avoir été en direct avec nous en ce jeudi 13 avril. Pour ma part, je retiens cette définition d'Étienne Klein, le physicien, qui dit « Le temps est cette chose mystérieuse qui renouvelle sans cesse l'instant présent ». Cette émission se réécoute, c'est sur franceinter.fr et nous, on se retrouve demain avec cette question qui changera sûrement notre rapport au temps. Quoi dire si un jour des extraterrestres débarquent sur la planète ? Comment communiquer ? Vous pouvez déjà nous laisser vos messages, grand bien vous fasse, à radiofrance.com.